Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons cette série qui est intitulée « Ayez confiance ». Notre titre d'aujourd'hui, étude numéro 7, c'est « Comment éviter de vous fâcher ». Une règle importante pour être heureux et réussir, c'est ne laissez pas les choses vous agiter, et cela est vital. Un médecin m'a dit un jour ce qu'il avait prescrit à un homme d'affaires qui se plaignait que ses nerfs étaient à plat. Vous n'avez pas besoin d'être agité ou fâché. Pratiquez simplement votre foi religieuse, suggéra-t-il. Avez-vous beaucoup de cas semblables et est-ce là votre prescription habituelle? Demanda le patient. Oui, répondit le médecin. J'ai noté une augmentation sensible dans le nombre de problèmes émotifs et nerveux. Plusieurs patients deviennent malades simplement à cause d'une incapacité à surmonter une agitation prolongée. Mais, sauf les cas où une cause physique définie existe, je crois que l'individu moyen n'a pas à être agité ou nerveux s'il prend les médicaments que vous, ecclésiastiques, dispensez. Ce n'est pas la première fois que cette idée m'était présentée. Il y a 20 ans environ, j'ai conduit ma mère chez un éminent spécialiste du cœur à Boston. Après un examen minutieux, il se cala dans son fauteuil, jeta un coup d'œil railleur à ma mère et dit « Mais madame, vous êtes chrétienne, n'est-ce pas ?» Ma mère avait été la femme d'un pasteur pendant de nombreuses années et une travailleuse active pour l'Église. Cette question l'a évidemment fait sursauter. Et elle a répondu, j'essaie d'être vraiment une fidèle chrétienne, répondit-elle. « Eh bien, j'ai peur que vous n'y travailliez pas très fort, » dit le médecin, « et il y a très peu de choses que je puisse faire pour vous. Je pourrais vous prescrire certains médicaments, mais au-delà des effets palliatifs, je ne crois honnêtement pas que cela puisse avoir quelque valeur. Je suggère donc que vous pratiquez précisément la technique de confiance. Ayez confiance. Et la technique de calme et de foi que vous trouverez dans le Nouveau Testament. Faites cela et je crois que vous vous en tirerez très bien. Aujourd'hui, nous savons qu'une étape importante vers la santé émotive et physique consiste à croire et à pratiquer notre foi chrétienne. La foi chrétienne contribue à la santé physique et émotive parce que elle s'occupe d'attitudes et de comportements mentaux. Plusieurs maladies humaines, ainsi que nous l'expliquons maintes fois dans certains livres et cassettes, sont causées par une mauvaise façon de penser. Un médecin déclara récemment qu'il y a 25 ans, 2% seulement des désordres stomacaux, des indigestions et autres maladies connexes ainsi reliées au comportement mental, alors que de nos jours, 25% probablement des cas semblables sont simplement dus à la tension nerveuse ou l'agitation exagérée. Les gens deviennent malades en grande partie parce qu'ils ne peuvent contrôler et ils ne peuvent pas discipliner leur esprit. Les gens disent souvent qu'ils ont les nerfs en pièces. Cela est habituellement faux. Les nerfs sont en fait très rarement endommagés. Le nerf est simplement un fil téléphonique reliant le cerveau à une quelconque partie du corps. Ce qu'une personne signifie lorsqu'elle dit qu'elle a les nerfs en pièces n'est pas que quelque chose, ce n'est pas que quelque chose ne va pas, que quelque chose cloche dans les nerfs eux-mêmes, mais que les pensées qui stimulent les nerfs sont simplement perturbées. Ces pensées agitées empêchent le cerveau d'envoyer des impulsions ordonnées et contrôlées aux nerfs, et par conséquent, des messages contradictoires et incertains sont émis à l'endroit des nerfs. Le cerveau est confus parce que les pensées sont simplement dans la confusion. Ainsi, le système nerveux a tendance à être désordonné, avec le résultat que l'on se sent nerveux, qu'on se sent tendu, voire même emprisonné et agité. La nervosité, donc, elle est causée principalement par les pensées que nous avons. Ça paraît peut-être incroyable, mais c'est vrai. Apprenez à avoir des pensées ordonnées, contrôlées, disciplinées, et surtout restez calme, et vous ne serez pas tendu ou agité. Ayez confiance. Compte tenu de ces faits, il est de plus en plus évident que le principal remède contre la tension et contre l'agitation, qui, on peut bien comprendre, prédomine de nos jours, c'est la foi chrétienne qui cloche. J'ai rencontré un ami, un pasteur, que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. J'avais entendu dire qu'il avait été victime d'une dépression nerveuse. Mais maintenant, il semblait robuste et était l'image même de la santé. Nous nous sommes assis dans la bibliothèque, une journée d'hiver, devant un feu réconfortant. Il allongea ses longues jambes, s'adossa à son fauteuil et demanda. Il a demandé, avez-vous déjà pensé au rapport existant entre la foi chrétienne et l'art de se reposer? Notre foi chrétienne, continua-t-il, elle a été tellement préoccupée de morale et d'éthique, deux aspects de la plus grande importance, que plusieurs n'ont pas réalisé l'effet tonique de la foi. Pourtant, s'exclama-t-il, c'est étonnant ce que la foi chrétienne peut faire pour guérir la tension, cicatriser les pensées inquiètes et souvent anxieuses, et donner la force nécessaire pour affronter le stress et les pressions si courantes de nos jours. Vous devez avoir découvert quelque chose, le pressais-je Je l'ai donc pressé de me répondre clairement là-dessus. Oh oui, certainement. Il y a quelques années, j'ai fait une dépression nerveuse. Je suis allé à l'hôpital et on m'a soumis à tous les tests. Je n'avais plus d'énergie du tout. J'étais faible et apathique. Finalement, le médecin chargé de mon cas me donna son diagnostic. C'était une expérience semblable à celle de ma mère que j'ai décrite il n'y a pas si longtemps sur un des CD. Nous avons analysé votre cas, cher révérend. Un tel, dit-il, et nous avons décidé que si vous pratiquiez le christianisme vraiment, vous pourriez guérir. Ébahi, mon ami demanda, « Mais que voulez-vous dire ? Je suppose que vous ne lisez jamais le Nouveau Testament, continua le médecin, que vous ne le lisez certainement, mais que vous ne le lisez pas comme on devrait le lire. » « Bien sûr que je le lis, » protesta le pasteur. « Oh, je vois, » poursuivit le médecin. « Vous le lisez, mais vous n'y croyez pas absolument. » « Oh, mais j'y crois !» s'écria le pasteur. « Eh bien alors, voyons-le d'une autre façon. Et allez, admettez-le, vous ne mettez pas vraiment, vraiment en pratique son enseignement de la foi et de la confiance, n'est-ce pas ? Je sais que vous pratiquez sa morale et son éthique et tout le reste. Mais vous ne pratiquez pas votre foi chrétienne dans votre façon de penser. Mettez en pratique mentalement ces principes. Ne songez pas au lendemain ou ne laissez pas votre cœur se troubler. Ne vous tourmentez pas. Il est dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. N'est-ce pas vrai ? Et je commençais à faire entrevoir à mon ami ce que le sage et bon médecin voulait dire. Il dit calmement, « Je vois ce que vous voulez dire et vous avez raison. Je vais pratiquer ma foi dans mes pensées aussi bien que dans mes actions. » Et c'est vraiment un bon médicament, le meilleur de tous les toniques, dit le médecin. Le jour de notre visite, 2 ans plus tard, mon ami était assez solide et il était, on pouvait le voir sur lui, il était bien portant. Et de même sa femme, qui était assise près de lui, elle sourit et dit, « Je lui ai dit cela, vous savez, pendant des années, mais il ne voulait pas m'écouter et continua à s'épuiser et à se mettre les nerfs en boule avant de prêcher, car il croyait toujours qu'il n'arriverait jamais à compléter son sermon. » « Eh bien, je suis guéri pour de bon maintenant, » continua le pasteur. « Et maintenant, j'exhorte les gens à pratiquer l'évangile pour obtenir le soulagement de la tension et de la crainte. Je les exhorte même à prendre le plus grand de tous les médicaments. » Savez-vous que Caruso, c'était le plus grand ténor de tous les temps, Caruso avait un truc qu'il utilisait pour divertir ses amis à table. Il tenait dans les airs, entre le pouce et l'index, une longue tige supportant un ver fragile. Il chantait les notes de la gamme et répétait une haute note à plusieurs reprises. Et paf, le ver éclatait en mille morceaux. Si la tension et la vibration à haute fréquence affectent ainsi un ver, pensez à ce qu'elles peuvent faire également à nos personnalités et à nos corps humains si complexes. Dans son livre Release from Nervous Tension, relâcher la tension nerveuse. Là, le docteur David Fink, il explique le processus suivant. Il attire l'attention sur l'intercerveau. Je ne savais pas que ça existait, mais maintenant j'ai compris en étudiant un peu. Alors, je répète, il a attiré l'attention sur l'intercerveau. Les nerfs, dit-il, contrôlent tous nos organes. Ces nerfs sont regroupés principalement dans une partie du système nerveux, et cette partie du système nerveux est le contrôle central qui devrait normalement faire fonctionner nos cœurs, nos estomacs et nos poumons en harmonie les uns avec les autres. Ce centre nerveux de notre vie émotive est appelé l'intercerveau. Quelquefois, il est appelé thalame, T-H-A-L-A-M-E, thalame, ou hypothalame. L'intercerveau est le siège des émotions, telles que l'amour, la haine, la crainte, la rage, la jalousie, etc. Le docteur Fink cite le docteur Harvey Cushing comme ayant déclaré que les tempêtes émotives issues de l'intercerveau peuvent causer des ulcères d'estomac, des palpitations du cœur et d'autres maladies. L'intercerveau, dit le docteur Fink, s'assoit sur le siège du conducteur. Il explique son fonctionnement. Au-dessus de l'intercerveau se trouve le cerveau. Le cerveau qui occupe la plus grande partie de l'espace dans votre crâne, c'est la partie de votre système nerveux qui analyse et qui pense et qui décide. Il vous fait savoir ce qui se passe exactement dans le monde. C'est avec votre cerveau que vous lisez votre journal. Votre cerveau interprète la situation générale et envoie ses découvertes à l'intercerveau pour susciter une action ou une sensation. L'intercerveau renvoie la situation au cerveau sous forme de joie ou de dépression. Lorsque vous vous sentez calme ou heureux, triste ou déprimé, ou lorsque vous avez la trouille ou une indigestion d'origine nerveuse, vous le savez parce que votre intercerveau a dit à votre cerveau exactement ce qu'il ressentait. Le docteur Fink conclut, pour bénéficier d'une bonne santé, vous devez d'abord vous entendre avec votre intercerveau. Chers amis, je ne dis pas que nous devons être d'accord avec tout ce que dit le docteur Fink, mais je pense que ce n'est pas interdit d'y réfléchir un peu. Un homme qui est malade ne court pas à une bibliothèque médicale pour commencer à lire désespérément. Il s'assoit avec le médecin. Le médecin l'examine et, mettant à profit sa connaissance des livres médicaux et ses longues années de pratique, il rédige une ordonnance au patient et lui donne de simples conseils applicables à sa maladie particulière. Le patient apporte l'ordonnance à la pharmacie. Il ne croit pas qu'il sera guéri par l'arôme de tous les médicaments contenus dans le magasin. Le pharmacien remplit la prescription, lui donnant un médicament spécifique. Il écrit un mode d'emploi spécifique sur la bouteille ou la boîte à prendre 3 fois par jour tel que prescrit. La pratique chrétienne, elle devrait suivre une procédure similaire, un diagnostic et l'application spécifique d'une formule. Imaginez, chers auditeurs et auditrices, que Jésus-Christ est vraiment à côté de vous. Lorsque vous commencez à vous inquiéter, arrêtez-vous et dites: Seigneur, tu es avec moi, tout va bien. Lorsque vous entrez dans un restaurant, même si vous êtes avec quelqu'un, pourquoi pas ne tirer simplement une chaise discrètement et imaginez que Jésus-Christ est assis sur cette chaise. Lorsque vous marchez dans la rue, imaginez que vous pouvez entendre le bruit de ses pas, sentir ses épaules, voir son visage. Lorsque vous vous retirez le soir, placez une chaise près du lit, pourquoi pas, et imaginez que Jésus-Christ est assis sur cette chaise. Puis avant d'éteindre la lumière, parlez-lui et dites: Seigneur, je ne m'inquiéterai pas car je sais que tu me protèges et que tu me donnes la paix. Cela peut sembler insensé. Un homme dont le pasteur a donné le conseil que vous venez d'entendre, est revenu voir son pasteur et lui a dit: « Vous savez, cette histoire du Christ s'asseyant sur une chaise ou marchant avec moi, eh bien, dit-il, très hésitant tout d'abord, eh bien, savez-vous, que je crois maintenant honnêtement que ce n'est pas bête du tout, car je crois qu'il est vraiment là. Chers amis, il a parfaitement raison. Ce n'est pas bête du tout. Un autre homme qui est venu voir ce pasteur était d'accord avec cette découverte. Il lui dit qu'il ne pouvait pas dormir. Il était assez hagard et visiblement au point de rupture. Le problème est que mon esprit est trop vif, se plaignait-il. Son éducation était dans une large mesure scientifique avec des permis d'une école d'ingénieurs supérieurs. Il était un homme brillant, mais son esprit fonctionnait beaucoup trop rapidement pour son tempérament émotif et n'était pas synchronisé avec son mode de vie. Cette contradiction chez son visiteur lui rappela l'incident du citadin qui se rendit à la campagne et qui observa un fermier qui sciait une bûche à grands mouvements égaux et mesurés. Ce citadin dit impatiemment: écoutez, laissez-moi scier la bûche. Il commença par des mouvements lents, mesurés, mais accéléra bientôt le tempo. le trait devient crochet et la scie s'est mise à se coincer terriblement. Et le citadin dit « Oh, je crois que je n'ai pas si bien fait tout cela après tout. » Le fermier lui répondit « Oh, c'est parce que vous avez permis à votre esprit de prendre les devants sur la scie. Voilà tout le problème. » Par l'attention, l'esprit de l'homme prend les devants sur sa nature émotive et la dissolution d'une personnalité parfaitement synchronisée en résulte. Et cela était le cas de l'homme qui est venu voir son pasteur. Le pasteur lui demanda de mettre en pratique un simple moyen spirituel. Lorsque vous rentrerez chez vous et que vous irez au lit ce soir, mettez une chaise à côté de votre lit. Imaginez que le Christ est assis sur la chaise et lorsque vous serez prêt à vous endormir, regardez vers la chaise et dites « Il donne son sommeil au bien-aimé » puis faites-en une déclaration personnelle. « Il me donne son sommeil car je suis son bien-aimé » et croyez que le Christ sera là pour vous protéger. Puis éteignez la lumière et endormez-vous. L'homme dit plus tard, « J'ai essayé, mais ce n'est qu'imaginaire, parce que le Christ ne pourrait pas être là. Il ne faut quand même pas croire des choses qui n'existent pas. » Le pasteur lui dit, « Mais essayez d'y croire quand même. Essayez et vous verrez. » L'homme dit plus tard que les quatre premières nuits, rien ne se produisit et il avait presque décidé que cela était une notion farfelue, ainsi qu'il l'expliqua. Mais, continua-t-il, la cinquième nuit, je dormis merveilleusement et depuis j'ai aucun problème. Et il dit, je crois maintenant que la présence du Christ est plus que l'imagination. Ce n'est pas une simple imagination, mais c'est une réalité, c'est un fait réel. La dernière fois que le pasteur l'a vu, il a dit qu'il mettait encore la chaise près du lit. Bien sûr, il s'attarde trop, on le comprend, au symbolisme de la chaise. Mais, s'il peut obtenir des résultats en installant une chaise, pourquoi pas? Car cela véhicule l'une des plus puissantes, des plus efficaces, des plus profondes de toutes les idées, l'idée que Dieu est avec vous et que aucun mal ne peut vous être fait. Vous n'avez donc plus rien, absolument plus rien à craindre. Oui, ayez confiance. Je voudrais, avant de terminer cette très courte étude, exceptionnellement courte, je voudrais vous donner quelques pensées. Et voyez-vous, ces pensées peuvent venir pas automatiquement, oh non, seulement quand on... Excusez-moi. Seulement quand on médite dans la prière la Sainte Bible. J'ai dit dans la prière. et il peut nous venir des choses merveilleuses. Et là, je voudrais vous transmettre quelque chose. Écoutez bien. Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Revenez toujours à lui pour refaire le plein. Que votre âme près de lui respire à fond, aspire et expire une atmosphère de pur amour. Pardon. Une atmosphère de pur amour, tout comme vous respirez à fond, un air pur avec vos poumons. Rien en vous ne peut engendrer ce pur amour. Comment donc pourriez-vous le répandre autour de vous si vous ne commencez pas par le recevoir? Toute forme de service et de service vrai et fécond s'étend et doit s'exercer dans cet amour. Quand il est là, le moi est mis de côté, tandis que lorsque le moi s'affirme, il annule ce que contient de meilleur toute espèce de service. Apprenez à reconnaître le Seigneur et à reconnaître sa pensée à votre égard jusque dans le détail de votre vie toute ordinaire. Et c'est ainsi que vous vous maintiendrez dans son amour, que vous en serez pénétré et que cet amour alors inspirera et éclairera tout ce que vous ferez ou ce que vous direz. Ménagez-vous souvent des moments tranquilles avec le Seigneur. Vous pourrez y parvenir au milieu même de la foule, pourvu que le moi n'intervienne pas. Vous aurez réalisé de grands progrès lorsque vous vous apercevrez qu'il vous est impossible de vous complaire habituellement en vous-même pour vous tourner ensuite vers lui, vers le Seigneur, et vous oubliez vraiment. Votre vie doit être une vie de service intense et de consécration. Mais votre lutte n'est pas tant une lutte apparente extérieurement dans le monde actuel. Elle n'est qu'une lutte effective au niveau de l'invisible. C'est une lutte en vérité contre les principautés et contre les puissances. Et pourtant, c'est une lutte joyeuse. Tout ce que le Seigneur a fait quand il était sur la terre, il le fait aujourd'hui au niveau de l'esprit. Saint Paul, son serviteur, avait pris conscience de cette vérité quand il a dit de lui qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dès que la moindre appréhension en face de l'avenir vous effleure, dès que vous commencez à ressentir un fléchissement spirituel, votre attention s'est portée sur les vagues et le vent contraire. Alors vous criez, « Seigneur, sauve-moi !» Et sa main s'étend vers vous pour vous sauver, comme elle sauva son pauvre Pierre, qui a eu peur et il s'est mis à douter. Donc, ne doutez jamais, mais ayez confiance. Nous allons terminer maintenant par la prière. Oui, qui d'autre ai-je au ciel, sinon toi, mon Seigneur et mon Sauveur? Et il n'y a aucun être sur la terre que je désire, qui est comparable à toi. Ma force peut faiblir et mon cœur trembler, mais ce que j'ai, c'est toi. Et c'est pourquoi je demeure dans le pays de la vie, Seigneur. Mon Sauveur et Seigneur, tu es près de mon chemin et près de mon lit. Que je sois éveillé ou endormi, je ne suis pas séparé de toi, plus jamais. Et parce que tu vis, Seigneur Jésus-Christ, je vis aussi et je vivrai. Oui, Jésus, Jésus vivant, tu es proche. Par ton amour, chassant la crainte, tu ne dors pas les heures de la nuit, mais tu me garderas dans ta lumière. J'ai totalement confiance en toi. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de notre série « Ayez confiance ». À bientôt. Au revoir.